Soit les déclarations, c'est cela qu'on répond.
Donc, je peux répéter que c'est un protocole d'entente tout à fait conventionnel pour, qui va toucher uniquement la construction de la rue. C'est un projet qui avait déjà été pré-autorisé, là, le projet du Corridor 14.
Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Oui, d'accord.
6.5. Mandat à l'UMQ, c'est l'Union des municipalités du Québec, a-t-il d'offres achats de produits chimiques pour le traitement des eaux? Quelqu'un propose?
Ariel Baudin, je propose. Dans le fond, c'est comme vous parlez, on va date l'Union des municipalités du Québec pour faire des achats de poupées, donc on bénéficie de tout avantage.
Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord?
D'accord. Oui, d'accord.
Oui, d'accord.
Merci. 6.6. Octroi de contrat. Acquisition d'analyseurs de chlore pour les puits Riviera, Ronchamp et Montréal.
Riverdale.
Excusez-moi. Oui, puis Riverdale, Ronchamp et Montréal, c'est ça. Quelqu'un propose?
Oui, je propose. C'est une nouvelle exigence qu'on ait ça. On les a déjà au puits de Mont-Gabriel. Ça permet de monitorer le taux de chlore à peu près en temps réel. D'ailleurs, j'ai déjà eu des questions de citoyens qui voulaient savoir s'il y a plus de chlore en hiver qu'en été ou comment si on fait un suivi. Puis, la réponse, c'est que maintenant, oui, on va faire suivre le taux de chlore. C'est-à-dire, la raison, si vous pensez que l'eau est plus chlorinée en hiver, vous avez raison, c'est parce que je m'en fous, je m'appelle, je vais m'enfarger. Une raison pour ça, c'est que le chlore se dégrade moins vite dans l'eau quand elle est froide. Donc, vous allez le sentir un peu plus. C'est quand même dans les limites acceptables. Je propose.
Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
OK. 6.7, pour code contrat, conception et surveillance des travaux de réfection, chemin des Chanterelles et du lac Renaud.
En fait, c'est Jean-François propose. En fait, c'est... à la suite d'un rupture d'un barrage de castor qui est annulé, la firme EFEL Expert Conseil pour 55 500 euros.
Parfait. Effectuer la surveillance des travaux. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Oui.
Parfait. Urbanisme, demande de délégation minage, c'est la parole à M. Allard.
D'abord, au point 7.1, pour le 1471 rue des Coffins, afin de permettre qu'une véranda se retrouve en cours avant alors que le règlement l'interdit. C'est un terrain qui est enclavé, qui est desservi par un chemin privé. La définition pure de la façade avant est en fonction du chemin d'accès, alors que la réalité est tout autre. Et pour cette raison-là, on propose une dérogation mineure pour accepter la construction de cette véranda-là.
Parfait. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que vous proposez le...
J'en fais la proposition.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
D'accord.
D'accord.
Merci.
Oui, d'accord.
Au point 7.2, le 381 rue Dufresne, afin de, premièrement, permettre que la marge avant soit de 2,7 mètres alors que le règlement exige une marge avant minimale de 6 mètres, que la remise se trouve à 1,8 mètres de la ligne latérale alors que le même règlement exige une marge latérale de 2 mètres. C'est une construction qui date de 1955. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est officialiser là, la réalité terrain telle qu'elle est là, probablement en vue là, d'une vente de maison, là, si ma mémoire est bonne.
Parfait.
Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle sur cette dérogation mineure-là? J'en fais la proposition.
Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
D'accord.
Oui.
7.3.
Au 2219 rue de la Tourmente, afin de permettre une dérogation mineure, afin de permettre un garage détaché avec abri d'auto empiète sur 1,65 m dans la cour avant, alors que le règlement l'interdit. En fait, c'est un terrain qui est sur deux rues, qui fait comme deux façades. Il semble avoir eu une confusion là, entre les informations qu'a reçues la personne qui a fait les plans d'implantation. Et la construction de la maison avait été faite avant la construction du garage. Le fait que le garage se fasse par après, on doit passer là, par une dérogation mineure. C'est la raison pour laquelle on fait la demande de dérogation mineure. Je peux rajouter peut-être que le propriétaire a été très, je ne sais pas si c'est coopératif, là, mais a été très conciliant là, dans ces choses. Il a même permis là, de rapetisser son garage là, de deux pieds ou d'environ deux pieds, afin d'être le plus possible près de la réglementation. Donc, l'effort de son côté a été fait. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle sur cette demande de dérogation mineure-là? J'en fais la proposition.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Au point 7.4, pour le lot 3-889-193 rue Dubé, il est proposé que le conseil refuse la demande de dérogation mineure suivante. La demande était à l'effet que les cases de stationnement se retrouvent en cour avant alors que le règlement l'interdit, qu'il n'y ait aucune bande paysagère qui ne soit présente sur une profondeur minimale de 1,5 m le long de la ligne avant alors que le même règlement l'exige, que l'espace de stationnement n'est pas d'allée d'accès ni d'allée de circulation alors que le même règlement l'exige, que la largeur d'accès aux cases de stationnement soit de 12,5 mètres alors que le même règlement la limite à 6 mètres, que l'empiètement de l'aire de stationnement devant la façade principale avant soit de 100% alors que le même règlement limite à 30%, que l'espace de stationnement se retrouve à 1 mètre de la façade. Y a-t-il d'autres choses? Principal le règlement, alors que le même règlement exige une distance minimale de 1,5 mètres, je pense juste dire que l'espace de stationnement, non, c'était vu, que la surface végétale en cours avant soit de 17%, alors que le même règlement exige un minimum de 60%, et que le fond bâti soit de 45,9%, alors que le même règlement exige un minimum de 50% afin d'y construire un bâtiment trifamilial isolé. On propose de refuser cette demande de dérogation mineure-là parce que, principalement au niveau du stationnement et du dégagement des neiges, il n'y aura aucun moyen pour ce bâtiment-là, tel qu'il est présenté, de pouvoir disposer de la neige sur son terrain. Donc, il irait déposer la neige sur le terrain public, ce qui n'est vraiment pas l'idée. Est-ce qu'il y a des commentaires sur cette demande de dérogation mineure-là à plusieurs points? J'en fais la proposition.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
La proposition est à l'effet de refuser la demande de dérogation mineure. Est-ce que les gens sont d'accord?
Oui, d'accord.
Parfait. On passe aux demandes de PIE 7.5.
Ils vont être adoptés en bloc. Donc, d'abord, que le Conseil accepte les demandes de PIE suivantes. Le 2585 rue de la Rivière, une construction. C'est un bâtiment commercial de 6 unités locatives proposé de 1 étage plus une mezzanine afin que les deux bâtiments voisins... afin d'être situé en deux bâtiments voisins, soit le CHSLD qui est près de la 117 à la sortie de l'autoroute, là, on le connaît, et le gros baril et le garage qui est situé juste au coin de la rue Rivière, de la rue de la Rivière et la route 117. Ensuite, un PIA pour le 2971 rue Proto. C'est une galerie, on a déjà proposé ce PIA-là. Ça avait été refusé à cause de l'intégration des couleurs. Le propriétaire a décidé d'acquiescer à la demande et d'intégrer les couleurs de l'ensemble du projet. Le 15 rue Maurice-Aveline, une enseigne. Il s'agit d'intervertir les enseignes murs et l'enseigne poteau pour le commerce des têtes de cochon. Ensuite, le 444 chemin Pierre-Pélado, une enseigne, c'est l'enseigne Via Capitale qui va être située sous l'enseigne principale qui était à l'époque Bronzage Capri, qui est maintenant autre chose, un autre commerce, mais ils sont encore en négociation là, pour la pancarte qui va être située en haut. Pour l'instant, ce PIA-là touche uniquement la Via Capitale.
Ça va être des soins
multiples là, d'esthétique principalement. Là. Donc, le PIA vise uniquement la fiche commerciale pour Via Capital. Le 799 Boulevard Saint-Adèle, une enseigne pour le commerce Rebelote, Friperie et compagnie. Tout de suite aussi avec ça, le 799 Boulevard de Saint-Adèle, une rénovation, toujours pour le même commerce, Rebelote, Friperie et compagnie, pour la peinture du revêtement extérieur et des volets. Et ensuite, le 447 chemin Pierre-Pélado, une rénovation qui comporte le remplacement du revêtement extérieur et le retrait d'une galerie. Et ça fait le tour des PIA. Je propose l'ensemble des...
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
7.6, projet de résolution du PC-moi. Il y a tous les numéros audio, le 6547-99989, 6547-990, 627-403 et 627-404, boulevard Saint-Adèle, la caserne. Tu peux pour dire la caserne?
Oui, ça pour la caserne. En fait, je pourrais lire l'ensemble des attendus, là, j'ai une page pleine, je vais vous éviter ce supplice-là. Si vous avez besoin de le voir, là, de le voir attendu par attendu, vous viendrez me voir, vous pourrez consulter cette chose-là. On va résumer la chose pour pouvoir implanter là, la caserne sur ce terrain-là. On doit accepter là, certaines modifications là, au règlement. On passe par un PPC-moi. Principalement, c'est au niveau de la hauteur en trois étages là-dessus pour être capable d'accommoder l'ensemble des services sur un espace moins imposant, donc des coûts moins importants et les monter en étage alors qu'il n'y a pas d'impact là, à l'entour. Fait que, principalement, c'est la présentation du PPC-moi.
Proposé, est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Il va y avoir une consultation.
Oui, c'est vrai. Consultation, le 12 août 2025, conformément à l'article, à 6h30. 6h30, là, les gens, c'est souvent confondant pour eux. Là,
à la place des citoyens?
Non, c'est
ici.
Okay. Ça va se faire ici. Puis c'est 6h30, donc notez-le. Là, c'est, donc je fais la proposition de l'expérience de moi.
Le jeudi.
Tout le monde est d'accord.
Oui. Le 7.7, abandon du PPC-moi pour les lots 2 453 882 et 2 453 883, voisins du 2364 chemin de Deauville. Quelqu'un propose l'abandon du.
En fait, c'était le projet des 5 cabines en forêt.
Oui.
Voilà, le référendum, il y avait 55 signatures, puis il y en a eu 78.
On n'ira pas plus. On n'ira pas en référendum, c'est ça.
C'est ça. Jean-François propose.
Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord?
D'accord.
Je suis contre. Je vais voter contre cet abandon de ce PPC-moi-là. En fait, c'est sur un terrain de 358 691,5 m². On proposait 5 unités de coucher, 5 unités de coucher en forêt. Alors que le nombre, la dimension du terrain, puis la valeur du terrain est de 771 600 $ est quand même importante. Les personnes désiraient principalement offrir du coucher en forêt, des activités très zen, là, on va le présenter comme ça. Ces gens-là étaient déjà venus faire une présentation. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont transité, qui étaient, à mon avis, puis qui me permet, là, en toute quiétude, là, de voter contre là, le rejet de ce PPC-moi-là, c'est qu'on accepte un PPC-moi, c'est uniquement pour le projet présenté. Il y a des informations qui disaient qu'on pouvait augmenter le nombre de couchers en forêt alors que ce n'était pas possible. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi qui avait transité là? Il y avait différentes informations. Ah oui, que si on permettait la location à court terme sur ce lot-là, il fallait, on était un petit peu comme peinturé d'un coin, puis il fallait l'accepter partout, alors que c'est pas la réalité là, réglementaire. Donc, pour ces raisons-là, je vais m'objecter à l'abandon du PPC-moi.
Moi aussi, je suis contre l'abandon. Pour toutes les raisons qu'a énumérées à M. Allard, mais toi aussi pour d'autres raisons. Je ne sais pas si les gens qui ont signé le registre, si ont fait parce qu'ils voulaient tuer le projet ou s'ils voulaient un référendum. Je ne peux pas savoir. Mais les gens, je pense, qui ont motivé ces gens à signer, vous savez peut-être que les villes, ils ne font pas de référendum. Puis vous devrez savoir, les villes ne font pas de référendum par règle générale parce qu'un référendum, ça coûte 50 000 $ ou plus. C'est pas un coût qu'on peut justifier dans notre budget parce qu'il y a 78 personnes ou 38 ou 42. Vous avez sûrement lu des articles dans la presse par rapport à ça à Montréal qui ont signé un registre. Moi, je suis de même avis que l'Ordre des urbanistes du Québec qu'il faudrait beaucoup mieux encadrer ce pouvoir réglementaire. Dans ce cas-là, je comprends très bien les inquiétudes pour le lac Deauville. Mais l'accès public du lac Deauville est à 1,5 km de route de l'où est proposé le projet. Il y en a qui appellent ça de la démocratie. Moi, je pense que ça appartient un peu plus à un abus de droit. Là, je suis contre. Là. Si on veut un référendum, qu'il fasse.
Donc, maintenant, il y en a trois pour et deux contre. Si je me trompe pas, donc, on l'abandonne. Parfait. 8. Loisirs, culture et vie communautaire. 8.1. Autorisation de signature. Protocole d'entente avec la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade, la FQME. Quelqu'un propose?
Oui, moi je propose, c'est le renouvellement de l'entente avec la Fédération de l'escalade pour les parois d'escalade au Mont Baldy, ce qui est comme sur le chemin. Je sais le Mont Baldy, j'ai de blanc de mémoire pour le long du chemin. Saint-Germain, oui. On renouvelle l'entente, c'est renouvelé cette fois pour une période de 10 ans. Comme ça, ça aide la Fédération à obtenir des subventions pour améliorer les infrastructures en place. Là. Donc, je propose.
Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord?
D'accord.
Oui, d'accord.
Merci beaucoup. 8.2, autorisation de dépenses, audit des sentiers du parc du Mont-Loup-Garou.
Oui, je propose. Ça fait partie de la planification pour les parcs. On a fait on m'a expliqué ça parce que je me suis demandé, on a déjà fait l'évaluation de certains sentiers, puis c'est vrai, parce qu'on a des gros projets en cours de mise à niveau de certains sentiers, mais ça, c'est un audit de tous les sentiers du parc à l'ensemble. Puis, tu sais, si les gens se posent des questions, y a-t-il assez de sentiers, pas assez de sentiers, qu'est-ce qu'on fait avec les sentiers, ça, c'est l'information qu'on a besoin pour prendre des décisions là-dessus. C'est un contrat qui est donné à la SOPER pour un montant de 16 638, taxes incluses. Okay. Je propose. C'est pris au fond des parcs.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Merci beaucoup. Le point suivant, octroi de contrat, station de lavage au parc de la famille. Quelqu'un propose?
Ariel Baudin propose. Dans le fond, on a eu une subvention de 30 000 $ pour avoir une station de lavage et c'est le plus bas soumissionnaire conforme aux zéro solutions qui a été retenu pour 33 440 on autorise également des frais supplémentaires de 25 070 $ pour tous les coûts reliés à l'installation, l'électricité, etc. Donc, je propose.
Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Parfait. 8.4, demande de reconnaissance au BNL. Quelqu'un propose?
Ariel Baudin, je propose. Donc, le programme de reconnaissance du BNL, c'est pour les organismes administratifs sur le territoire et régionaux qui sont reconnus. Ils ont accès ils bénéficient de taux réduits, par exemple, pour la location de la salle communautaire et de certaines gratuités. Donc, là, il y aurait le club d'athlétisme Les Légendaires des Pays d'en haut et la Ligue, la nouvelle Ligue Mini Palette Rose.
Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui,
d'accord.
Parfait. Maintenant, on a quelques avis de motion. Le premier avis de motion, 10.1, je laisse qui veut donner l'avis de motion?
Ariel Baudin. Dans le fond, c'est juste pour corriger une petite coquille. Donc, on mentionnait la taxation 2025. On va juste rajouter « et les années suivantes ». Donc, je, Ariel Baudin, conseillère municipale, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le futur règlement 1361-1, modifiant le règlement 1361, créant une réserve financière afin de financer des immobilisations, des projets et des programmes en environnement et en développement durable. Un projet de règlement est aussi présenté et déposé séance tenante.
Okay. On a un deuxième avis de motion, le règlement 1367, qui donne l'avis de motion.
Oui, je, David Augenstein, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le futur règlement 1377 décrétant un emprunt de 2 230 000 $ pour divers travaux sur le réseau d'aqueduc, incluant le coût des travaux, les honoraires professionnels, les frais inhérents, les taxes et les imprévus pour autoriser une dépense ne devant pas excéder 2 230 000 $. Un projet de règlement est aussi présenté et déposé séance tenante.
10.3, un autre avis de motion, le règlement 1379.
Je, Richard Allard, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté le futur règlement 1379 décrétant un emprunt de 3 465 000 $ pour les travaux de réaménagement du parc Claude Cardinal, incluant les coûts des travaux, les honoraires professionnels, les frais inhérents, les taxes et les imprévus pour autoriser une dépense ne devant pas excéder 3 465 000 $. Un projet de règlement est aussi présenté et déposé séance tenante. Pour un titre d'information, ce projet-là, et ce n'est pas un projet qui date d'hier, le projet était inscrit au PTU, le projet était aussi dans le plan de développement des parcs.
Le plan directeur des parcs.
Le plan directeur, excusez-moi, ouais. Le plan directeur des parcs qui a été voté en 2020. Donc, c'est, on arrive à l'étape là, où on voudrait là, entamer les travaux là, sur ce projet-là, en accord avec ce qui avait été décidé avant. Là.
Parfait. On passe maintenant au règlement. Règlement 11.1, règlement 1371, créant une réserve financière au fin de créer un fonds de prévoyance relativement à l'aqueduc municipal. Quelqu'un propose?
Oui, moi, David Huggins-Daines. C'est une réserve pour un montant maximal de 2 millions de dollars. On avait fait l'avis de motion. La dernière séance, Madame Lagrafière, est-ce qu'il y a des changements depuis ce moment-là?
Non,
c'est le même règlement. Donc, je propose.
Tout le monde est d'accord?
D'accord.
11.2, règlement 1372, créant une réserve financière au fin de créer un fonds de prévoyance relativement aux réseaux d'égouts municipaux. Quelqu'un propose?
Richard Allard le propose. C'est exactement le même type là, de réserve que M. Agenstein, David, vient de proposer. Le montant de cette réserve-là va être de 3 millions de dollars. Un montant maximum à la réserve de 3 millions de dollars.
C'est ça, c'est des montants maximum. Hein?
Oui. Maximum.
On va décider, ce n'est pas le montant qu'on met dedans.
Un financement initial d'autour de 560 000, là, si je crois, si je comprends bien, qui vient de l'excédent de fonctionnement.
Et ça,
on a des montants qui ont du fonctionnement non affecté. Là, on les affecte à des réserves pour s'assurer de faire des prévoyances pour des choses dans ces dossiers.
Parfait. 11.3, le règlement 1373 crée une réserve financière au fin de créer un fonds de prévoyance pour lutter contre les changements climatiques. Quelqu'un propose?
Ariel Baudin, je propose, c'est pour un montant maximal de 2 millions de dollars.
Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui.
D'accord.
Parfait. 11.4, règlement 1374, décrétant un emprunt de 1 775 000 $ pour l'acquisition d'un camion autopompe citerne, des équipements et de leur installation. Quelqu'un propose?
Jean-François propose.
On n'a pas donné l'avis de motion, mais pas longtemps. Est-ce que tout le monde est d'accord?
D'accord.
Oui, d'accord.
11.5, règlement 1375, concernant le code d'éthique et de déontologie des employés et employés, des employés E et employés. De la ville de Sainte-Adèle. Quelqu'un propose?
Richard Allard le propose. En fait, c'est une mise à jour des dernières normes là, en termes là, de code d'éthique et de déontologie. Une simple mise à jour là-dessus.
Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Okay.
11.6, règlement 1266-3, modifiant le règlement 1266, autorisation du fonds de roulement. Quelqu'un propose?
David Huggins-Day, je propose. On en a déjà parlé du fonds de roulement. Il y a une formule pour déterminer le montant maximal. On n'était pas au montant maximal, donc on modifie le règlement pour se rendre au montant maximal qui est de 7 700 000 $. Donc, je propose.
Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Oui, d'accord.
Merci beaucoup. Maintenant, pour les documents déposés, je cède la parole à Maître Sénégal.
Donc, elle était compressée de 201 221,50 pour la période du 7 au 13 juin 2025. Elle était compressée de 3 152 697,60 pour la période du 14 au 20 juin 2025. Elle était compressée de 310 518,68 pour la période du 21 au 27 juin 2025. Elle était compressée de 902 242,50 pour la période du 28 juin au 4 juillet. Les incompressibles de 27 908,13 pour la période du 5 au 11 juillet 2025, les incompressibles de 513 151,22 pour la période du 12 au 18 juillet. La liste des comptes à payer au montant de 1 121 832,87 pour le mois de mai 2025, les engagements au montant de 2 989 019,69 pour la période du 1er au 30 juin 2025. Dépôt du certificat de la greffière pour la procédure d'enregistrement des personnes allées à voter pour le règlement d'emprunt 1370. Délégation de pouvoir, embauche d'un employé saisonnier manœuvre au service des loisirs. Délégation de pouvoir, embauche d'un employé saisonnier manœuvre au service des travaux publics. Délégation de pouvoir, embauche d'un employé temporaire sur appel adjointe administrative. Et dépôt certificat de la greffière de la procédure d'enregistrement des personnes allées à voter pour le PPC Moi. Pour les lots 2 253
Je vais passer en dernier pour avoir plus d'impact sur mon message, si ça peut. Si c'est possible. Ça ne dérange personne?
Parfait. Madame Baudin.
Bonsoir tout le monde. Merci à tous d'être ici ce soir. C'est rare que la salle est aussi pleine. Je me dis qu'il faudrait peut-être penser à changer de salle. Je vais faire ce cours, là, vu que vous êtes. Vu que vous êtes beaucoup. On a parlé de l'acte, donc. On essaye, la ville, là, de sensibiliser le plus possible les gens aux espèces exotiques envahissantes. Il y a des lacs avoisinants qui ont été affectés par, entre autres, le myriophile à épi. Puis, c'est simple, il faut juste laver son embarcation parce que juste un petit morceau pourrait envahir le lac. Puis, ça coûte une fortune à éradiquer une fois que c'est installé. Bon, c'est impossible là, quasiment à éradiquer. Donc, je vous inviterai à sensibiliser les gens que vous connaissez. Et on travaille, la ville, on travaille de concert avec le RAPESAD, qui est le regroupement des associations des plans d'eau de Sainte-Adèle, et le Creux-Laurentides, qui est le Conseil régional en environnement, pour essayer de trouver les meilleures solutions pour sensibiliser et protéger nos plans d'eau. Tout récemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a une garde de sécurité qui fait le tour des différents accès publics pour s'assurer que les gens sont conscients qu'il faut laver leur embarcation et les sensibiliser à ça. Donc, merci.
Parfait. Monsieur Rivière.
Ben, bonjour tout le monde. J'avais préparé un beau texte sur l'oubli à la maison. Donc, j'ai laissé
Monsieur
Gagné. Ben, deux petits points. Premièrement, je voulais remercier l'association des Acmiettes. J'ai été à l'usiner à Duel qu'ils font tous les ans. Puis c'est une belle gang, c'est des gens qui travaillent fort pour le lac. Ils font une très belle job. Puis on a tout le temps été en collaboration, ça fait 4 ans que j'étais avec eux autres, que je travaille beaucoup avec eux autres. Puis je voulais juste leur dire un gros merci parce que c'est une gang de fun. C'est pas tout le temps facile, il y a des points qu'ils veulent, qui n'ont pas nécessairement tout le temps, mais je pense qu'ensemble, on lâche pas, qu'on va venir y arriver. Puis je voulais donner un petit mot, pour ceux qui me connaissent, je suis assez direct d'habitude. Je voulais féliciter les gens du Bon-Hibou, parce que ces gens-là, ils sont prêts en main, moi je trouve qu'ils sont prêts en main, qu'ils ont fait des choses bien. Puis ils m'ont communiqué il y a une semaine ou deux. Sur le coup, j'étais un peu surpris, il y avait des petits mots drôles un peu, mais je sais que c'était correct. J'ai été rencontrer M. Mélis, puis ils ont fait ça professionnellement. C'est des gens qui prennent soin de leurs affaires. Puis pour ceux qui ne savent pas trop, c'est sur Pelado. Puis le Mont-Hibou, ils ont changé leur pancarte en bas. Puis c'est eux qui l'ont fait. Puis juste un gros wow à tout le monde de cette gang-là. C'est félicitations. Puis si on parle des fois des citoyens qui se prennent en main, puis qui essayent de faire avancer les choses comme il faut, ils vont déposer une pétition. À ce soir, je suis 100% d'accord avec les pétitions. Ça a été fait super gros. Puis comme j'ai dit, il y a des élections, je ne sais pas si le programme va continuer, on ne sait pas ce que les gens vont décider, mais félicitations à tout le monde.
Monsieur Gendings.
Oui. Ah ben, bonsoir tout le monde, je suis content de vous voir ici. Je suis content de passer avant M. Allard, parce que moi, juste ici, j'ai une sorte de discours préparé. pas tant que ça, mais je veux dire que, tu sais, d'habitude, je ne commente pas ce qui se dit sur les réseaux sociaux. En fait, je vais faire mon mieux de ne pas commenter ces réseaux sociaux en général, parce que, ben, pour plusieurs raisons. Mais là, il y en avait parmi vous qui sont choqués au sujet d'une publication que j'ai faite sur mon compte personnel, mais qui a été republiée, parce que j'ai utilisé des gros mots comme « périmètre urbain » et « densification ». Et, je m'excuse, esprit sensible de s'abstenir. Je veux répéter ce que j'ai dit, parce qu'en fait, c'est d'intérêt. Puis je précise, par contre, je parle ici à titre personnel, c'est pas une position nécessairement du conseil. C'était dans le cadre du PPI Chantecler. Puis ce que j'ai dit, je suis découragé d'entendre que le mot densification est devenu un jurant dans la bouche de plusieurs. Parce que notre objectif, c'est pas de planter des tours, j'ai utilisé un autre mot, de planter des tours à condos sur le top des montagnes, mais de concentrer le développement, car il y aura du développement, de toute façon, à des endroits avec moins d'impact sur la nature et sur le paysage. Donc, c'est ça que j'ai dit. Moi, je ne pensais pas que c'était si choquant, mais bon. Et là, je vais ajouter un point important, parce que dont je parle là-dedans, c'est ce qu'on appelle, c'est pas la densification, et c'est pas mon personnel, mon objectif, la densification, c'est ce qu'on appelle la sobriété territoriale. Et ça, ça veut dire pas qu'on arrête de construire, mais ça veut dire qu'on arrête d'agrandir, on arrête d'aller toujours plus loin, de dégruger le territoire. Et ça, surtout, ça veut dire qu'on planifie là où il ne faut pas construire. Et ça, c'est une recommandation qui a été formulée en 2021 par Équiterre, encore, l'Ordre des urbanistes du Québec a donné leur aval à ça, plein d'autres groupes. C'est d'établir une zone de conservation, comme la zone agricole, essentiellement. Mais là, je vous le dis, là, faire ça, ça nous oblige de densifier. Alors, c'est comme ça que moi, personnellement, j'arrive à mon soutien à ce mot qu'on ne saurait pas dire, qu'on cacherait, de densification. Mais là, j'ai entendu que j'ai une vision d'aménagement du territoire qui est différente des autres, puis c'est parfait, c'est bon, on a le droit de se débattre de ça. Je dirais que pour moi, la sobriété territoriale, par contre, c'est comme un peu personnel, parce que vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, j'habite une maison de 53 mètres carrés, puis c'est sur un terrain de 152 000 mètres carrés. Pas 1000, 152, là. C'est dérogatoire en masse, ça, là. Mais, moi, je loue, c'est pas mon droit d'acquis. Mais c'est ça, je ne demande pas à tout le monde de vivre comme moi. Mais moi, pour moi, le fondement d'une politique morale, puis d'une vie morale, c'est toujours de se demander si tout le monde vivait comme moi, bien, ça serait quoi le résultat? Et c'est aussi ce qu'on on devrait demander par rapport à comment on aménage le territoire. Si on dit, bien, tout le monde doit vivre sur des terrains de 13, 19, 25 000 mètres carrés, bien, ça donne quoi, ça? Là? Ça va-tu laisser de la place pour des sentiers? Ça va-tu nous permettre de construire les logements abordables? Qu'est-ce que ça donne, là? Il faut poser la question. Donc, je vous laisse avec ça pour Parfait. M'expliquer. Merci.
Des
éditoriaux
à soir.
C'est ça.
Là, je vais être obligé de faire de retomber un petit peu dans l'humilité. C'est pas dans ma nature. Je pensais avoir le message le plus important, mais je vais vous laisser juger de savoir si mon message est le plus important. Vous savez que je suis ambassadeur pour le don de sang. T'es dû passer en premier. Il va y avoir une clinique le 18 août de 1h30 à 7h30 du soir à la place des citoyens. Moi, je ne peux plus donner. J'ai au-dessus de 200 dons à mon actif, mais les raisons de santé font que je ne peux plus le faire. Je vous demande d'être généreux parce que chaque don de sang, c'est une vie potentielle à sauver. Que les besoins, même en plein été, si on pense à d'autres choses, mais les besoins sont encore là. Puis je vous demande, si vous pouvez donner, de faire l'effort de donner, puis bien, juste si le message est important. Merci.
Mais maintenant qu'on a séparé, c'est retour de Paris. Alors, c'est la période de questions, donc je vais prendre en note les gens qui veulent intervenir. Je veux dire une chose en partant, c'est que, comme je l'ai déjà dit souvent, on ne pose pas de questions sur la vie personnelle des personnes, ça, habituellement, les personnes qui dérogent à ça. Puis aussi, je demanderai dans vos questions d'être bref, s'il vous plaît, et d'être surtout respectueux dans vos questions. Alors, je commence. Monsieur, c'est qui?
Mario.
Mario qui? Oui, mais oui. Ah, Tom. Je vais aller de côté, j'essaie d'être fermé. Oui, maintenant.
Philippe Mélis.
Philippe qui?
Mélis, Emmanuel Mélis.
Ok, je vais fermer de côté. Oui, madame. Oui, c'est vous.
Oui, faire le côté.
Côté-là. Oh, oui, monsieur là. Sur le côté, monsieur Lamarche. M. Oui, au fond, la main levée, je ne vois pas votre...
Carrie, c'est Carrie.
Pardon?
Carrie.
Ah,
Carrie.
Ok.
Carrie.
Ok, mais c'est Carrie ou Tom? Je m'inquiète Tom.
Les deux.
Ah, okay, les deux. Ok, mais là, de ce côté-là, c'est... Oui, oui, monsieur. Pardon?
Martin,
oh, Martin, excuse, je t'ai informé. T'as pas vu. Ah, il tourne de ce côté-là. Oui. Bientôt.
France, et tu?
De côté. C'est beau. Alors,
quand il y a une main qui est levée. Il y a une main levée en avant.
Michel. Ah, excuse-moi, Nadine, Nadine. Monsieur Poulin.
Oui, bonjour, mon nom c'est Mario Poulin du 310 rue Morin. Je voudrais savoir, je ne comprends pas une chose. En 2017, en juin 2017, nous on a acheté, on a démoli au mois d'août. En même temps, il y avait trois arbres dangereux, dont deux à côté de l'implantation de la maison. L'inspecteur était venu à l'époque, des deux arbres dangereux, mais trois arbres dangereux, là, gros de même, il a mangé de la moitié. L'inspecteur nous dit, vous ne pouvez pas couper les arbres. Comment ça? Parce que là, j'ai dit, on va reconstruire la maison. Les arbres vont tomber un peu dans la place. Non, vous n'avez pas le droit. Là, je dis, pourquoi? Là, il me dit, parce que vous n'avez pas de maison. Pardon?
Parce que quoi?
Parce qu'on n'a pas de maison. Pardon? J'ai pas de maison. Puis là, j'ai dit, OK, si on refait ce que tu as dit, je n'ai pas le droit de couper un arbre, des deux arbres, parce que je n'ai pas de maison. Dit, c'est ça. Il dit, OK, explique-moi pourquoi j'ai un garage à côté, bâtiment secondaire. Ah, vous êtes dans une zone grise. Finalement, plus tard, on est revenu ici, une couple de semaines plus tard, ici, parce qu'en même temps, il y a une autre inspectrice qui a passé, parce que nous, notre maison est en flamme montagne. Si tu es en haut, ta gant en bas, ça a l'air d'un trou, mais on peut rentrer l'auto dans le...
Sur la rue Morin.
Oui, 310 Morin.
OK, 310, je n'ai pas
310. 310 Morin. Mais on peut rentrer l'auto ou l'implantation de la maison. Puis eux, ils voulaient absolument qu'on mette des clôtures d'acier. Ils voulaient qu'on mette des clôtures d'acier tout autour. Comment on peut mettre ça en forêt avec des montagnes de terre partout? C'est possible. Finalement, on est venu ici. Là, j'ai expliqué ça au chef de l'urbaniste à l'époque, c'était un grand homme, je ne sais pas si c'est encore ici. Finalement, mais on a parlé. Là, finalement, plus tard, il s'est déplacé pour aller voir ça. Puis finalement, mais là, il a vu la logique de la situation. Fait qu'il a demandé de couper. Puis quand je vois un exemple maintenant, ce qui se passe, Beaujolais, un exemple, le massacre qu'il y a là
dessus. C'est des questions.
Mais la question, c'est comment se fait-il que des gens qui ont des terrains, puis qui coupent des arbres à blanc, comme tel, peuvent couper des arbres, puis moi, je suis obligé de venir ici faire une menace, comme tel, pour qu'on coupe mes arbres, puis après on accepte.
Mais
c'est quoi le problème?
Vu que c'est un cas personnel, peut-être que
vous pouvez vous faire une rencontre. Non, mais le monde, on doit savoir comment... Ma question, c'est, moi, on reconstruisait une maison, je n'avais pas le droit de couper un arbre, puis des gens qui construisent, un exemple, une maison sur un terrain, c'est une forêt, puis qui décident d'implanter une maison, on doit te couper un arbre. Moi, j'aimerais ça comprendre ça.
Sur le règlement, je peux peut-être essayer de vous aider là-dessus, parce que j'ai été constructeur pendant plusieurs années. Généralement, le déboisement est lié à un permis de construction. Fait que attendez, je vais finir.
On était là-dessus.
On m'a déjà dit, moi j'ai demandé, est-ce que je peux, en attendant le permis de construction, parce qu'il y avait des délais, est-ce que je peux commencer à au moins nettoyer le terrain? On m'a dit 4 pouces à 4 pieds, puis c'est tout ce que j'avais le droit de faire du nettoyage là-dessus. Donc, si votre question c'est bien, comment ça se fait qu'il ne m'a pas permis, puis ils permettent à d'autres, c'est que les autres, c'était en lien avec un permis de construction. Et c'est pour ça que le permis de déboisement, et non pas de coupe d'arbre, mais vraiment de déboisement, est permis, mais en lien seulement.
Oui, mais moi, c'était, en plus, c'était c'est pas de déboisement, c'était des arbres dangereux. C'est pas pareil. Là. Moi, là, j'ai planté 2000 arbres sur mon terrain, on a 50 000 pieds carrés. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans.
J'ai dû faire la demande et j'ai dû à faire la preuve que l'arbre était dangereux pour les Hydro-Québec.
Oui, mais c'est drôle, mais le chef de l'urbaniste, quand il est venu, après, quand il a vu ça, il a appelé ma femme pour dire « OK, c'est correct ».
Ben, est-ce que ça s'est réglé?
Oui, ça s'est réglé. Oui, mais ce que je veux dire, que comment se fait-il qu'un exemple Beaujolais coupe à blanc? Plein d'autres terrains, un exemple en arrière de chez moi, sur Martinet, pareil, c'est un terrain. ont coupé.
Mais il vient de vous répondre, là, parce que c'est un projet de construction qui ça fait partie du.
On reconstruisait, nous. On avait fait, on était dans la demande de permis.
C'est parfait. On va s'arrêter.
Parce que je peux pas.
Là, on est rendu dans des choses personnelles. On a répondu
ben
à votre
non,
question.
Là, vous vous cachez des choses.
On a répondu à votre question.
Moi, je vous parle de coupe de bois, carrément. Puis moi, c'était des arbres dangereux.
Mais là, on ne parle plus de ça. La question, c'était Bois du Lac.
Non.
Oui.
Ma question, c'est comment se fait-il que moi, je ne peux pas couper deux arbres dangereux alors qu'il y en a qui font des coupes à blanc?
Bien, vous le dites, parce qu'il y avait un
permis de construction. Coupe à blanc.
Mais c'est un permis de construction qu'il y avait. Mais vous, chez vous, là, écoutez, c'est pas personnel, cette partie-là. Là, ça se discute avec les gens à l'extérieur du conseil.
Alors, c'est une coupe sauvage. Ce terrain-là, c'est une coupe sauvage.
C'est votre opinion, vous avez
c'est pas mon opinion. Je suis en train de faire une donation de 1,2 million de pieds carrés. Fait que des zones là, de préservation, là, je sais c'est quoi.
Oui, oui, je comprends. Parfait. Monsieur Gilton et Perry Farmanian, dans l'équipe.
Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, les futurs candidats. Fait que je vais parler. Prenez ça. Ça fait 77 ans qu'on est dans le centre-ville Saint-Ladel. Je vois que ça s'améliore beaucoup. On a Brunet qui s'est arrangé, tout le monde. Bon. Perry va vous parler d'autre chose. Moi, je vais vous parler. Qu'est-ce qui se passe avec la rue Valiquette? Qui a tout été arrangé. Il y a deux poteaux qui sont là, un à moitié coupé. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. C'est dans le temps que Mme Brière était là quand il avait fait ça. Toujours pas enlevé. On est toujours oublié, centre-ville. On s'est parlé l'autre jour à propos de la traverse. Je vous remercie en passant, parce qu'on dirait que vous avez mis le feu à quelqu'un, puis ça va faire nos lignes au milieu du mois de juillet. C'est bien correct. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont-tu nous mettre encore le petit bonhomme à terre, dire traverse, puis pour que je le ramasse 2-3 fois par semaine pour dire à la voirie de le ramasser? Il est dangereux, ce coin-là. Point.
Oui.
Le directeur des travaux publics, là, ça fait des années qu'il nous stalle là-dessus, là. Ça, c'est peut-être un conflit personnel avec d'autres élus qui avaient ici avant.
Sur quoi, monsieur?
Pardon?
Il vous stalle sur quoi?
Ben, il stalle. On dit, mettez un dos d'âne, faites quelque chose à ralentir le trafic là-bas. Moi, j'ai un directeur qui s'est déjà fait accrocher. Fait. OK. Ça, c'est pour un côté. Dans le même sens, circulation, centre-ville, suis-je le seul à voir, depuis qu'ils ont bâti en face de l'école Saint-Joseph et tout là-bas, le trafic qu'on a sur cette route-là et la déficience pas de travaux publics, du ministère des Transports, de se réveiller, ils méritent un coup de pied dans le derrière, eux autres, là. Vous savez que je marche beaucoup. Moi, je marche de chez moi jusqu'au cinéma. Bon. J'ai le temps de voir une belle auto en descendant à côte. J'ai le temps d'aller dans mon bureau, aller au complexe vue, puis j'allais voir arriver au coin, là. Fait que je suis capable de le reconnaître comme ça. Fait que qu'est-ce qui arrive avec tout ça? Ces lumières-là devraient être changées pour les lumières intelligentes. Tout le long de l'année, là, à l'heure de l'école, mettons, de 7h30, 8h jusqu'à 9h30, c'est jamais. De 10h30, 11h jusqu'à midi à peu près, c'est jamais. Puis après ça, jusqu'à 1h, 2h, etc., etc. N'ayez pas le malheur d'avoir un gros camion sur le coin, parce que lui, il va shifter 5 fois, il va avancer, 2 autos vont passer, puis ça va retarder jusque là-bas. On me répond toujours, le ministère du Transport, il y a le temps qu'ils mangent des coupures dans derrière eux autres. Là. C'est le centre-ville Saint-Adèle là, qu'on a là-bas. Là. Fait que là, il faut faire quelque chose. Ça va peut-être, je comprends qu'il y a beaucoup plus de construction, il y a tout ça qui arrive. Mais quand on accorde des permis d'une voiture et demie par porte dans les petites rues comme à Saint-Adèle, ça ne devrait pas être. Vous voulez bâtir grand, aller loup-garou partout où est-ce qu'ils ont de la place. Là, on bâtit. Ça se ramasse où, ces voitures-là? Bien, dans la rue ou quelque chose comme ça, chez les voisins. En tout cas, je souhaite que tout le monde qui sont là, que vous preniez ça au sérieux. Puis moi, ça fait une couple d'années que le ministre du Transport, en qu'est-ce qu'il y a pour Saint-Adèle, là, ils changent de monde puis ils font rien. Fait qu'en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté.
Je veux juste préciser, quand vous parlez du ministère du Transport, effectivement, ça fait un an qu'on lui demande de faire les lignes pour les camions qui tournent avec une ligne d'arrêt.
Oui.
Les gens, ils ne la voient pas parce qu'il n'y a pas en quatre, mais ils ne voient pas de ligne. Ça fait un an qu'on lui demande. C'est supposé d'être fait bientôt, mais ça fait un an.
Mais c'est comme ça, mais je pense qu'on devrait peut-être saisir madame, on a une ministre qui est ici, là, et puis mettre un peu de pression là-dessus, parce que tant qu'à moi, dans tous les ministères, le ministère du Transport, ça devait être un des pires qu'on a vu. Moi, ça fait des années qu'on est à Saint-Adèle, là, messieurs, dames. Là. Merci de m'avoir écouté, Et puis, je souhaite qu'on ait une amélioration. C'est votre centre-ville, c'est là que tout le monde passe. Mm-hmm. Merci. Okay.
De Perry en même temps, mais
c'est
principe, c'est
pas déjà un autre Perry après le
plus tard. Monsieur Mélis, Philippe.
Oui. J'ai des documents à vous donner, là, mais.
Ah, c'est répétition, mais dis, c'est ça, il n'y a pas de répétition.
Bon, ben alors, bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames et Messieurs les conseillers. Je vous remercie de m'accorder ces quelques minutes et nous vous remercions, les résidents présents ici aujourd'hui, de nous donner l'opportunité de vous parler d'une initiative citoyenne qui, nous sommes convaincus, apportera des bénéfices significatifs à notre communauté. Aujourd'hui, je vous présente une pétition signée par de nombreux résidents de la ville de Sainte-Adèle. Nous sommes d'ailleurs très heureux de vous informer que notre conseiller local du district 5, Gaétan Gagné, a visité les lieux et nous soutient dans notre démarche. Cette pétition concerne la demande de la fermeture permanente de la section escarpée de la rue du Moinbout. Vous la verrez à la dernière page, j'ai une image qui montre où se trouve cette section-là. Cette portion de la route a une pente très abrupte, ça représente un double défi. Elle compromet la sécurité routière tout au long de l'année, été comme hiver, et génère des coûts d'entretien constants pour la municipalité. Ces dépenses pourraient être avantageusement être réinvesties ailleurs pour le bénéfice de tous. Nous voyons dans la fermeture de cette section de route une opportunité de transformer un enjeu en plusieurs avantages concrets pour notre communauté et la municipalité. Le principal bénéfice est une amélioration significative de la sécurité. La fermeture de cette section dangereuse éliminerait les risques d'accidents pour les automobilistes, les piétons et les cyclistes, particulièrement crucial en raison des pluies torrentielles qui mangent toute la route d'été et durant nos rigoureux hivers québécois. En fermant cette portion de route, la circulation automobile, nous prévoyons une réduction substantielle des coûts d'entretien pour la municipalité. Cela inclut des économies directes sur le déneigement, le déglaçage et les réparations constantes qui sont même venues aujourd'hui creuser nos fossés. Dû à l'érosion et à l'usure, du surcroît, cette action atténuerait considérablement les dommages causés par l'érosion hydrique sur le reste de la chaussée. L'eau est descend puis elle mange tout le reste de la rue du Moinbout. Les économies réalisées permettraient non seulement de soutenir d'autres infrastructures et services essentiels dans notre communauté, mais elles pourraient aussi contribuer au financement du pavage du reste de la côte du Moinbout. Ce projet intégré à notre pétition représente une solution durable qui mettrait fin aux problèmes d'érosion et générerait des avantages clairs pour les citoyens et la ville. Une fois fermée, cette route pourrait être transformée en un nouvel espace public, utile et agréable. Que ce soit un sentier de promenade, un jardin public ou une espace vert, ça contribuerait à l'embellissement du quartier et offrirait aux résidents un lieu pour la détente, l'exercice, la socialisation. Cela augmenterait la qualité de vie et pourrait même valoriser les propriétés environnantes. On l'a déjà vécu à l'expérience de l'implantation de l'enseigne du domaine Moinbout, que vous avez déjà peut-être vu, nous a clairement démontré que la création d'un espace commun favorise les interactions entre voisins et renforce le sentiment d'appartenance à la communauté. En somme, fermer une section de rue de route problématique, c'est non seulement résoudre un enjeu de sécurité et d'économie, mais aussi ouvrir la porte à des aménagements qui enrichissent la vie des citoyens. Nous sommes convaincus que cette fermeture n'entraînera aucun impact négatif significatif sur la circulation ou l'accès aux propriétés avoisinantes, compte tenu des alternatives routières existantes. Toutes les propriétés ont un accès privé. Il n'y a personne qui accède à leur terrain par là. Nous tenons également à souligner que nous sommes pleinement conscients de l'importance de maintenir l'accès aux infrastructures essentielles. La fermeture de la circulation ne compromettra en aucun cas l'accès pour les services d'urgence ou pour l'entretien des infrastructures existantes, notamment celles liées à l'électricité et à l'eau. Ces deux-là roulent sur ce morceau de route-là, fait qu'il faudra faire quelque chose. Nous sommes persuadés qu'une solution pourrait être trouvée pour concilier ces besoins. Loin de toute accusation, les services publics travaillent avec nous. Tout le monde fait un effort, mais ce n'est pas gérable. Notre intention est de vous soumettre une proposition concrète et prometteuse Ensemble, nous pouvons œuvrer à un avenir plus sûr, plus serein et plus durable pour notre collectivité. Madame la mairesse, mesdames et messieurs les conseillers, je vous remercie de votre écoute et vous remets maintenant cette pétition. Nous espérons que vous l'écoutez.
C'est moi de féliciter pour votre travail. C'est vraiment un beau travail que vous avez fait, puis une belle présentation.
Merci.
On le dépose, ça va être évidemment discuté avec les services de travaux publics et les services techniques, puis il va sûrement avoir des propositions qui vont être faites au niveau du conseil, puis on va vous tenir au courant.
Je l'aurais déjà fait parvenir à deux services.
OK, parfait. Après, je vais faire le suivi avec Mme Charpentier, puis on va vous tenir au courant.
Merci.
Merci.
C'est
vous. Madame Côté?
Oui.
Je le sais que c'est une bonne. Pas sûr, mais je pense.
Non?
Allez-y.
OK.
Bon, ben, bonsoir. Moi, ça fait 4 mois que vous avez changé des lumières sur
oui,
les
rues. Oui, je savais, vous m'aviez pas ça.
Bon, c'est ça. Et puis, mais c'est parce que ça fait 4 mois qu'elle est allumée, la lumière. Là, ils ont dit que j'ai appelé Mme Carrière. Mm-hmm. Elle dit, pas de problème, on va la faire enlever. Mais avant de la faire enlever, elle est indélébile. Parce que moi, là, ça rentre chez nous complètement. Là, elle est vraiment sur une lumière. Mais ça, tout est réglé. Là. C'était une erreur qu'ils l'ont rallumée.
Ah,
il a rallumé. Ben oui, ça fait 4 mois là, qu'elle est rallumée. Puis tous mes voisins d'en haut sont tout au courant. Puis j'ai parlé avec la madame. Puis elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, là, avant de l'éteindre, on va l'enlever. Bien, ça fait 4 mois là, qu'elle n'est pas enlevée. Là. Mais au moins, venez l'éteindre. À ce moment-là, moi, et après ça, bien là, vous l'enlèverez.
Mais vous pouvez montrer, hein?
Oui. Puis même mon mari, vous a écrit. Et puis, il avait dit, bien, il faut faire une pétition. Puis c'est
mais
tout
c'est
ça.
Pas une pétition, mais j'ai dit qu'il fallait que ça prenait la
carte. Mais tout est fait. Tout est fait. C'est pas ça le problème. Là.
Okay,
tout
est. Le moment, c'est la lumière.
Ils l'ont rallumé.
Ils l'ont rallumé.
Vous avez déposé un document avec
les
signatures des gens de votre secteur qui sont
non, non, non.
On ne parle pas de ça. Là. On parle de la lumière qui était éteinte et qui ont rallumé.
Oui.
Il faut qu'elle s'aille enlever, mais au moins l'éteindre en attendant.
Les secteurs sont d'accord qu'elle
ben oui, mais c'est réglé, là, ça.
Donc, on a le document.
Oui, vous avez tout ça. Madame Carrière, quelque chose comme ça. C'est que ce n'est pas des travaux publics. Elle, quand je l'ai appelée, elle m'a dit oui, on s'excuse. Le monsieur.
Cahier.
Ah, parce qu'elle, elle m'a dit, elle dit, m'excuse. Elle dit, quand ils ont vu que la lumière était fermée, ils l'ont rallumée. Il vérifiait si les allumés. C'est correct, mais la mienne, il n'y avait pas besoin de l'allumer. Parce qu'il y avait. C'est vraiment, là, je vous dis, je marche chez nous, là. C'est vraiment. J'ai envoyé des photos, hein. C'est vraiment. Puis ça, là, ça fait 4 mois. Mais moi, si c'est pas capable, Hydro-Québec est supposé de venir, de l'enlever. Mais en attendant, au moins, le monsieur qui était venu le fermer, il peut revenir, un électricien. Parce que ça n'a pas de bon sens.
Non, mais je comprends pourquoi elle était éteinte, si elle allumée, vous voulez qu'elle soit éteinte à nouveau en attendant.
En attendant, au moins, parce que ça fait 4 mois, là, je vous dis, là. C'est ça. Hein? Donc, non, je peux me promener tout nu dans la maison, là, c'est vraiment, vraiment clair, là. J'ai pris des photos, puis je les ai envoyées, là. Puis moi, ma maison est plus en bas. Fait que le spot est en haut. Fait qu'à ce moment-là, bien. Mais les gens d'en haut sont tous au courant.
J'ai tout compris.
Tout compris? Vous allez vous faire de quoi?
Ben oui.
Vous viendrez me voir après la séance.
Oui? Ah, j'espère que vous allez faire de quoi, parce que je vous dis, là, je suis la première folle, là.
Parfait.
Parfait. Merci beaucoup.
Monsieur Jouard.
Moi, ben oui, j'espère.
Vous savoir pourquoi je suis ici, vos filles, là.
Ben oui, je le sais.
Bon, moi, je m'en venais, vous avez avisé la semaine passée que je m'en venais déposer une pétition, je vais la déposer.
Oui.
Bon, ce que vous avez annoncé au début de la séance, évidemment.
Ça change des affaires,
hein? Ben, c'est que ça change des affaires. C'est que la pétition réclamant un référendum sur le public du secteur Chanteclair. Vous l'avez reporté au moins jusqu'aux prochaines élections, si j'ai bien compris.
Oui.
C'est ça? Ah,
oui.
Bon, je vais aller vous poser des questions, mais je vais garder mes questions pour le prochain conseil.
C'est good.
La pétition est déjà déposée.
Oui.
Si jamais ce projet-là survit aux élections, ben, je reviendrai poser mes questions à ce moment-là.
OK.
C'est
bon.
Bonne soirée.
Merci, M. Gard.
Les élections, c'est pas comme un référendum.
Monsieur Lamarche, l'André de son prénom.
J'ai, dans les règlements que vous avez passés ce soir, dans les informations qu'on a eues, vous parlez de la Sûreté du Québec, qui est actuellement à Saint-Sauveur, qui va quitter Saint-Sauveur et qui va être relocalisée. On a-tu des démarches déjà avec des gens sérieux pour aller chercher la Sûreté du Québec pour l'amener à Sainte-Adèle?
Mais ce qui était arrivé à l'époque, vous vous souvenez, il y avait eu un projet, puis je pense que le maire de Saint-Sauveur avait fait sa cabale autour. Là,
exactement.
C'est ça. Là, il ne serait plus là.
Puis le merci aussi.
Mais ce qui arrive, maintenant, moi, quand le MRC a fait cette demande-là, j'étais un peu hésitante, parce que je me disais, c'est qui paye ça? Puis on m'a dit, bien, c'est le gouvernement, mais par contre, c'est le MRC qu'il faut qu'il construise. Fait que là, j'avais beaucoup de réticence. Là, dans le fond, ils ont exprimé au gouvernement la nécessité. Il n'y a pas de, il y a rien d'endroit de... Dans le moment, c'est juste solliciter le gouvernement de faire quelque chose pour qu'il y ait un poste de police dans les MRC des Pays d'en haut. C'est juste là que c'est rendu. Puis nous autres, bon, on appuie les MRC dans sa démarche pour faire des pressions au gouvernement pour qu'il y ait un poste de police dans les MRC. C'est juste là que c'est rendu. C'est pas rendu bien loin, là. C'est juste là.
Ce qui veut dire qu'il n'y a personne actuellement. Ben, de toute façon, Sainte-Adèle n'est pas là actuellement. Qu'est-ce qu'on attend pour aller... Oups, je suis en train de vous descendre votre... Qu'est-ce qu'on attend pour aller faire pousser au plus sacrant la place pour mettre le poste de police, c'est clair, c'est le Mont-Gabriel. Parce qu'on est tous... D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, vous êtes d'accord avec ça, je ne comprends pas pourquoi la caserne de pompiers, que vous l'avez chupée à l'autre bout, là-bas, dans le bout de chez nous, au Lac Mien, quand vous auriez pu aussi la mettre au Mont-Gabriel, qui est vraiment une place où c'est un accès à une vitesse incroyable.
Je vous comprends, je vais vous expliquer, c'est que finalement, au niveau des normes gouvernementales qui sont les nouvelles normes, si on s'est implanté à l'endroit dont vous dites, pour couvrir l'autre partie, ça avait, il a fallu faire affaire avec deux municipalités, c'est-à-dire avec Val-Morin et Sainte-Marguerite, c'est ça? Parce qu'en étant là, s'il y a un problème, il y a une petite portion qui serait couverte par Saint-Sauveur, ça serait beaucoup plus simple pour nous de faire affaire pour Saint-Sauveur pour un petit partiel de terrain versus deux autres stations de pompiers, parce qu'ils marchent maintenant par territoire et non pas par ville.
En tout cas, dans la même ordre d'idée, c'est très clair que si vous aviez déplacé, de toute façon, on verra, là, mais que si vous amenez la caserne de pompiers à l'ameniez au Mont-Gabriel, parce que dans le temps, c'était ça qui était parlé, là. Je vous parle dans mes années à moi, là. On voulait avoir la police là, on s'est fait bypasser parce qu'en tout cas, des gamiques politiques de maire qui étaient plus pesants. Mais les pompiers aussi, c'était la même chose. Sauf que le but à ce moment-là, c'était on ne peut pas, faut attendre qu'il y ait une nouvelle élection à Saint-Sauveur parce que le maire du temps voulait garder. On sait très bien que les pompiers, c'est des chasses gardées à tout point de vue. Chaque chef de pompier a sa petite caserne, puis c'est sa caserne à lui. Il va avoir ses camions, ses bebelles, ses pompes, en tout cas. Vous le savez, vous le voyez.
Ça n'a pas changé.
Non, ça n'a pas changé. Je suis sûr, quand vous avez reçu le budget, vous avez tout lu.
On s'est fait dire que le gros problème maintenant, c'était les bananes.
Les
bananes sur les épaules.
Ah, OK.
Celui qui en a plus, l'autre ne veut pas perdre ses bananes.
En tout cas, ben moi, l'idée, c'était qu'on voulait, après ça, jumeler. Parce qu'on aurait pu jumeler pour réduire de beaucoup les coûts. Mais là, on s'en va à l'autre bout là-bas, on ne sait pas pour combien. Là, on va s'en aller. La sûreté, j'espère que ça va être au Mont-Gabriel, mais ça aurait été Là, quand je vois que la police s'en vient, on aurait encore une raison de plus à dire, écoutez, tous les services de sécurité, pompiers, police, c'est tout dans le même secteur, ça nous viendrait, puis à ce moment-là, bien, la Sûreté, on l'a déjà, là. Ils nous l'ont enlevé, notre police, on a la Sûreté du Québec, qui est à travers le territoire. Mais on pourrait avoir la même chose au niveau des pompiers.
Là. Là, on parlait de la police au départ. Là. La police au départ, c'est loin d'être faite. C'est quand même c'est très, très embryonnaire comme démarche. Là. C'est tout simplement de demander, de reconnaître la nécessité puis de faire quelque chose pour que le gouvernement dise oui, ça prend un poste de police. À partir de là, là, ça sera décidé à quel endroit.
Mais ce serait peut-être bon aussi de pousser pour que, pas juste qu'ils disent le gouvernement. C'est sûr que le gouvernement va être obligé de le dire. Le service de police qui est à Saint-Sauveur, il faut qu'il sorte de là.
Oui, oh, il
n'y
a pas de
fait choix. Il faut qu'il aille ailleurs. Là.
Mais je ne sais pas où ils vont aller, parce qu'avant de construire un poste de police, ça va prendre du temps. Mais même si on avait l'autorisation, là, que je n'avais pour une couple d'années avant de voir le poste de police apparaître sur le terrain.
En tout cas.
Mais pour ce qui est de la caserne, comme je dis, de votre temps, puis aujourd'hui, les règles ont beaucoup changé. Puis maintenant, on marche par territoire, puis avec des affinités avec des villes avoisinantes. Puis dans ce cas-là, c'était d'essayer d'avoir le moins de villes avoisinantes avec lesquelles on doit travailler.
En fait, si je peux préciser...
Pardon?
Si je peux préciser, là, c'est qu'avec les nouvelles normes qui s'en viennent, le gouvernemental, il n'y aura plus de territoire. Donc, nous, c'est sûr qu'on gère comme notre territoire Saint-Adèle.
Hein. Mm-hmm.
Maintenant, ce ne sera plus ça. Dans le fond, ce qui s'en vient, ça va être la caserne la plus près qui intervient. Et nous, ce qu'on sait, c'est qu'au nord, il n'y aura plus de caserne avant Sainte-Agathe. La prochaine, elle va être à Sainte-Agathe. Puis les autres sont installés, là, celles qui construisent au coin de la 329, la 107.
Mm-hmm.
Fait que la prochaine, elle va être là. Là, il y en a une à Valmorin, mais elle n'existera plus bientôt quand celle-là va être construite. Fait que nous, pour la couverture de notre territoire, si on réfléchit en couverture, c'était préférable qu'on soit au nord, parce qu'il n'y aura plus de caserne dans le nord, plutôt qu'être dans le sud, parce que dans le sud, il y a Saint-Sauveur, il y a Sainte-Marguerite. Fait que là, quand on regarde les territoires des casernes existantes, puis nous, pour, je ne sais pas si vous comprenez, pour la couverture de notre territoire, c'était mieux qu'on soit vers le nord, puis il y a un accès sur l'autoroute de toute façon. Fait que quand on calcule le temps pour se rendre sur tout notre territoire, là,
il y a un accès sur l'autoroute.
Ben oui, vous avez un accès pour aller vers c'est-tu Mont-Sauvage ou
Oui,
exact. Fait que là, vous pouvez rentrer sur l'autoroute, vous rentrez plus vers le sud.
Non,
tu
n'as
pas
la chambre de je ne sais pas c'est laquelle. Là, c'est juste pour le sud, l'ancien Pont-Rose. Pour ceux qui vont. Puis pour le nord, mais là, il faut aller revirer sur le chemin du Mont-Sauvage, descendre,
sans aller dans le nord.
Pour la couverture de notre territoire, là, si on avait été dans le sud, ça n'aurait pas été positif.
Non.
On serait rendu à faire des appels à Saint-Sauveur.
On aurait eu trop de puis parce que mon
appel, c'est à 200 mètres de Saint-Sauveur.
À ce moment-là, on va-tu négocier avec... si tous ces gens-là... Les bonnes personnes de Val-David, les bonnes personnes de Valmorin vont y contribuer pour le service de pompiers?
Ça, c'est sûr. Quand on va sur un autre territoire, ça, c'est de l'entraide automatique.
Oui, mais là, ça ne sera pas juste l'entraide automatique, madame. Là, s'il n'y a pas de pompiers, ça va être leurs pompiers à eux autres.
Hein. Nous, on a des ententes déjà avec la Régie incendie des Monts, qui est le Nord, Saint-Agathe, Val-David, Valmorin. Nos tarifs sont déjà définis. Là. S'ils viennent nous aider, si on va les aider. Ou si on y va, pas juste les aider, les couvrir. La même chose, on a avec Sainte-Marguerite, avec Saint-Sauveur, avec Marmont.
Oui, c'est correct.
On va jusqu'à Bois-Briand.
Mm-hmm.
Quand vous avez, c'est une bonne question, quand on va sur un autre territoire qui n'est pas le nôtre, c'est pas vous qui payez, c'est la ville d'à côté, on y envoie une facture.
Non, oui, mais... Vous envoyez...
Ils ne payent pas une partie de notre caserne.
Non,
ils
c'est ça.
Pour les frais.
Non, ils payent juste les frais d'utilisation de nos pompiers et de nos camions. Je ne sais pas, il faudrait juste vérifier, mais là, si vous bâtissez une caserne là-bas qui va coûter combien, je ne sais pas. Là. Mais comment est-ce qu'elle va coûter, cette caserne-là? Là? Ça va coûter quoi? 7, 8, 10 millions? 15 millions? Bien, 15 millions, on ne peut pas s'arranger avant de commencer à creuser là-bas, de dire à Val-David, bien là, vous allez payer un montant pour la caserne, vous allez avoir un pourcentage d'utilisation, on le fait pour la piscine. Bien là, quand c'est Sainte-Adèle qui paye, vu qu'on est une ville plus grosse, plus supposément très riche, on paye toujours 30 % ou des pourcentages sur tout. Puis là, quand on regarde les autres municipalités autour, on leur donne quasiment gratuit, là.
Là, vous
êtes
mêlé la MRC avec les
codes-parts. Non, mais les codes-parts, ce que je vous demande, je ne suis pas mêlé partout. Ce que je vous dis, c'est pourquoi Val-David et Val-Morin ne paieraient pas une code-part du service d'incendie?
Non. Vous voulez dire qu'ils paieraient une partie de la caserne parce qu'on utilise son pied nu, tout ça?
Ben, c'est-tu logique?
J'ai une boule de cristal. Je peux vous dire, dans un avenir, on ne sait pas combien de temps, il risque de se créer une régie intermunicipale.
C'est ça.
Et là, les frais vont être répartis plus équitablement. Parce que vous avez raison, qu'on assume pour d'autres villes une construction de caserne. Oui, c'est un peu cher. Ben. Mais il y a une, je vous le dis, dans ma boule de cristal, je ne sais pas si elle est bonne ou elle est en rouge,
bon,
mais il y a une régie intermunicipale qui va voir le jour dès que les bananes vont tomber. Oui,
ouais, c'est ça. Ouais. Sauf que ça pète encore.
Non, je ne sais pas si longtemps que ça, parce que je sais que ça se passe beaucoup.
Ben non, là, ça, pour les pompiers, c'est parce que là, on est dedans, là, puis il y a déjà beaucoup de décisions prises, mais pour la sûreté du Québec, ça va être long, parce qu'il n'y a rien de décidé encore. Il n'y a pas rien de décidé de l'autre bord non plus, là. C'est deux décisions gouvernementales. Mais là, on a la chance de dire, avant qu'on commence à mettre la pelle dans le terrain, bon, mais là, voulez-vous voir les plans? Est-ce que vous êtes intéressé à voir? Ça va être quoi, notre caserne de pompiers? Notre caserne de pompiers, la vôtre, la nôtre. Fait que venez voir, parce que vous allez en payer une partie. Mais il faut qu'il se fasse quelque chose de même. Si ça se fait pas...
J'ai jamais assisté à une création d'une régie intermunicipale, mais j'ai l'impression qu'il y a une répartition à un moment donné qui se fait. Mais si je suis toute réserve, j'ai jamais assisté...
Non, mais moi, c'est parce que je regarde le dossier qui avance pour les pompiers, mais moi, je l'ai voyé à Mont-Gabriel. Là, madame me dit, c'est vrai, ça, effectivement, si elle doit posséder le dossier, là, elle connaît le dossier, elle n'est pas là pour rien. Fait que ce que je veux dire, mais là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec les autres municipalités autour? Tu sais, fait que si on va chercher Val-David et Val-Morin, c'est déjà un pourcentage. Même si on va chercher 15% ou qu'on aille au prorata de la population, ou je ne sais pas comment ce qu'ils veulent, au prorata des feux. En tout cas, une façon de faire, mais on va sauver.
Mais André, je ne sais pas si on ne pourrait pas s'informer sur la caserne. Présentement, ils font une caserne, ils vont se demander à d'autres villes de contribuer.
Mais ils sont en régie.
Mais il y a plusieurs casernes sur notre territoire. Quand on se met en régie, comme la Régie Incendie des Monts, eux autres, ils ont plusieurs casernes sur le territoire. Là. Fait qu'ici, il y aurait la caserne à Sainte-Adèle, il y aurait la caserne, ça dépend avec qui on se met en régie, mais il pourrait en avoir une à Sainte-Marguerite, à Marnite, à Saint-Sauveur. Tout ça devient les casernes de quartier de notre régie. Comme celle de la Régie Incendie des Monts, où au départ, il y en avait une à Val-David, il y en avait une à Val-Morin, il y en avait une à Saint-Lucie.
En tout cas, moi, j'ai comme principe que juste utilisateur-payeur. On est supposé d'être de même dans tout. À ce moment-là, utilisateur-payeur, là, ils vont avoir un service de pompiers qui va avoir les feux qu'il voudra. Ils vont payer à l'heure le nombre de pompiers qui ont été là-bas. On va peut-être leur charger le gaz, puis un peu d'eau. Après ça, c'est bonjour, salut pour le reste. Mais ça n'a pas de sens. On va avoir mis 15 millions.
On a revisé les montants qu'on chargeait aux autres municipalités quand on allait faire des interventions. Je ne serai plus là, je ne me représente pas. Je vais le donner surprise pour tout le monde. Là. Mais il sera à ce moment-là, peut-être, il y aura peut-être lieu à ce moment-là de réviser les montants qu'on charge aux municipalités pour essayer là, d'absorber une partie des coûts du remboursement hypothécaire.
Tu sais, c'est toujours. Là, je ne veux plus, je vais laisser une d'autre. Ce que je veux juste vous dire, c'est que, encore là, monsieur, alors, tout le monde, si on attend, puis qu'on va voir, puis on attend, ça va être la même chose que la police, la même chose que la sûreté. Ici, ça va nous passer entre les doigts. Là, si demain matin, On n'a pas réussi avec Val-David puis Val-Morin. Eux autres vont sortir. Là, on arrive, on leur dit, bon, mais là, mesdames et messieurs, on vient de... On a un nouveau conseil, sans requin, ils nous chargent le gros prix. Ils vont dire, c'est parfait, mais ils ont toujours le choix de s'en aller avec Sainte-Agathe ou autre. Ils ont toujours des choix qu'ils pourront définir dans ce temps-là. Mais si, au départ, on s'assoit avec les deux, puis qu'on leur dit, écoutez, on commence à bâtir et on veut avoir votre, on veut avoir votre assentiment, puis que vous nous disiez ce que c'est que vous en pensez de ce... de ce plan-là, il y a tout cas, whatever, je n'ai pas besoin de vous dire comment le vendre. Puis à ce moment-là, vous allez avoir une réponse. Puis là, on ajustera, mais ils vont avoir déjà été contactés. Là, ce n'est pas ça qu'on va faire. On va leur dire, ça vous coûte ça.
Si vous n'êtes pas pressé à la fin de la réunion, moi, je vais rester, puis j'aimerais ça vous écouter, parce que votre vision est super intéressante. J'aimerais ça vous écouter là-dessus, puis je vous donnerai comme un autre
son de cloche.
Puis sans être ennemi, là, c'est juste...
Oui.
Je veux juste dire, je sais que c'est pas du tout l'intention, là, mais juste pour le chef des incendies, c'est un petit peu réducteur, là, de dire que c'est juste les bananes, là, qui viennent voir. Ils travaillent quand même fort à faire la demande de régionalisation, donc je sais que c'était pas l'intention, mais...
OK, on continue. Monsieur Jolicoeur, je peux arriver avec les autres choses.
Mon sujet, c'était la question d'incendie. Mais juste savoir, avez-vous reçu les estimés pour les coûts de la caserne?
Le projet est encore en évaluation, il est encore en processus là, de conception. Puis, si vous savez, je me suis même fait pas taper ses doigts, là, mais j'ai été très insistant pour avoir les coûts. J'ai hâte de savoir les coûts. Mais évidemment, le temps que le processus de conception n'est pas avancé, on a des estimations tellement approximatives que ces coûts-là...
C'est en quel million et quel million?
Ben, j'ai levé les doigts tantôt, là, mais il y a une partie qui va être subventionnée. Là, donc, il va falloir...
OK. C'est ma deuxième question. Mais combien de pourcentage de subvention?
Tout ça aussi, là, on n'est pas encore prêt.
OK. Mais ce qui m'inquiète, c'est que vous dépensez de l'argent de 110 000 pour... aller passer le câble optique, mais on n'est pas sûr que vous êtes subventionné. Puis, oui, Michel, non, vous avez déjà...
On a eu la garantie qu'on
se fait. OK, mais à quel pourcentage, on ne sait pas.
Mais le montant a été dit.
Oui, le montant a été dit. Dans le fond, c'est un maximum présentement de 4,2 millions.
OK.
On peut aller chercher avec cette subvention.
Sur 16 millions, vous avez peut-être mentionné tantôt? 18 000, peut-être.
J'oubliais le camion aussi. Le camion d'incendie, il peut être partagé. Un 1,8 million.
Tout ça est déjà partagé quand on va en... Il paye quand il l'a tout.
Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour les candidats futurs aussi. Moi, c'est Perry Fermanet, je suis le propriétaire du cinéma Pine. Mon père, c'est mon stagiaire non rémunéré. L'autre jour, vous avez planté un arbre avec le nom de ma petite fille dessus. J'ai trouvé ça très, très beau.
Ah,
oui. C'était vraiment le fun, oui. Puis j'ai fini la cérémonie, je reviens au cinéma, je me parque. Puis à côté de mon cinéma, j'ai deux personnes dégueulasses qui faisaient des actes sexuels juste à côté de mon cinéma.
Centre-ville.
J'étais dégoûté. Honnêtement, j'étais dégoûté par ma ville. J'en revenais pas. Là. J'étais comme, quel beau moment, puis quel moment dégueulasse par la suite. Le lendemain, c'est quelqu'un qui chiait sur mon terrain. C'était vraiment pas le fun. Là. J'ai quatre membres de ma famille qui sont des patrouilleurs au poste de police de la SQ à Saint-Sauveur. Okay? Là, je vous invite à contre-vérifier les faits que je veux dire, mais eux me disent qu'on a une moyenne de 6 patrouilleurs sur la MRC au complet. À tout moment.
Effectivement.
C'est assez...
On paye 3 millions. Hein?
C'est ça. C'est alarmant. Puis en plus de ça, des fois, ils se font appeler à emmener du monde à l'hôpital. Il faut qu'ils regardent à l'hôpital toute la journée. Il faut qu'ils emmènent dans d'autres villes parce que leurs cellules sont plus réglementaires, etc. Puis la deuxième affaire que je trouve assez désolante, c'est que s'il y a 100 appels dans une journée, il y en a 60 qui sont pour Sainte-Adèle. On est les champions, là, on est surnommés. Sainte-Adèle, la ville des appels. T'sais. Fait que moi, je suis commerçant, je trouve qu'on a vraiment, au niveau de la sécurité publique, on a une dégringolade au niveau des crimes qu'on voit, du vandalisme, des toxicomanes, des criminels avec des cas lourds là, qui opèrent sur notre territoire. On a des crack houses maintenant, des maisons de prostitution, ça c'est très généreux comme terme ce que je dis. Moi, ma question pour le conseil, c'est qu'est-ce que vous avez intention de faire pour ça? Là? La sécurité publique elle dégringole, puis ça prend absolument une force policière plus forte chez nous, parce que là, ça va de moins en moins bien, selon moi.
On avait des agents de sécurité, mais ils n'ont pas juridiction à tout ce qui est criminel. Donc, le seul niveau criminel, c'est la SQ. Puis, c'est faire les requêtes, on a les problèmes, la même chose avec la vitesse, des trucs comme ça, il faut toujours aller requête, puis requête sur requête. Puis, les questions d'itinérance ont été discutées aussi à l'MRC, c'est comme des logements, avec l'MRC, avec le CI3S, les solutions, là, on vit dans un univers où c'est généralisé, c'est pas juste ici, c'est pas là le monde, là. Puis, là, on a de l'itinérance plus qu'avant parce qu'il y a une crise du logement, mais il y en avait toujours avant. Là. Fait que, tu sais, la façon de gérer ça, c'est pas simple, c'est que il y a uniquement la SQ qui peut intervenir sur des terrains privés à la demande des gens. Mais normalement, il y en a qui sont sur les terrains du gouvernement du Québec. Mais tant qu'il n'y a pas de plainte, ils vont pouvoir rester là. Nous, on n'intervient pas. S'il y a, à moins que ce soit qui trouble la paix ou qui. Mais on n'intervient pas, mais quand on intervient, c'est de communiquer avec la SQ.
Absolument. Moi, je rajouterais que c'est vraiment un dossier. Puis, tu sais, ils travaillent fort, les policiers. Je ne dis pas qu'ils font pas mal leur job. Là. Ils courent d'un appel à l'autre. Puis, ils m'ont dit, à un moment donné, c'est par ordre de priorité. Là, tu sais, comme, c'est ça. Tu sais, c'est juste par ordre de priorité. Des affaires plus graves que d'autres. Tu sais. Mais moi, je trouve que c'est un dossier qui devrait être très, très important dans les années qui s'en viennent parce que notre population, elle augmente vraiment beaucoup. Fait que ça veut dire plus de crimes, etc. C'est normal. Tu sais, je comprends ça. Mais vraiment, là, comme on a mentionné déjà, moi, je pense qu'un poste de police ici à Sainte-Adèle, là, ça serait crucial. Là, parce que il faudrait qu'il y ait une équipe beaucoup plus grosse de SQ, deux fois plus grosse.
En fait, plus grosse, c'est que finalement, c'est des quotas ça, qui marchent en fonction de la richesse foncière, en fonction du territoire, de la population. Il y a un paquet de critères qui déterminent le nombre d'agents de la SQ. Puis on avait 8, on a perdu 2 dans le réaménagement là, qu'ils ont fait à l'échelle du Québec. Mais ça, c'est pas des interventions qui se font au niveau local, ça se fait au niveau du gouvernement du Québec.
Ouais,
si
on vous
réveille, pourtant
on
engagerait
des policiers
privés.
Des bouncers?
Madame Mérès, laissez-moi juste dire, vous devrez avoir du budget pour la sécurité locale, même si on n'a pas les droits, quelque chose qui reste à quelque part, ça peut nous. Si des agents se promènent autour de là, pas de flanage, pas de ci, pas de ça, ils vont s'enlever de là. Si le monde sont là et attendent que les demandes des policiers pour y aller, tu demandes aux policiers d'aller défendre une femme qui est en train de se faire battre, venir enlever un gars qui est en train de se droguer dans le rouge chez nous.
En fait, ce que ça prendrait, c'est plus d'agents de sécurité locaux. Évidemment qu'ils ne peuvent pas intervenir comme tel, mais au moins, ils assurent une présence qui...
Oui.
Exactement.
Oui.
Et là, le gars, il est là, tu traînes là, fais récupérer votre temps. Deux fois, trois fois, ça ne marche pas, là, tu appelles la police. Le gars peut se le faire dire deux, trois fois, il va aller ailleurs. Ce n'est pas juste nous autres, c'est le centre-ville. Écoutez, on reçoit les familles, on reçoit du monde.
C'est sûr.
Puis là, ça quête dans ce type de cinéma, des restaurants, tout que je vous dis. Voyons donc, Saint-Sauveur, on passe ce trouble-là parce que leur sécurité locale, toute la main, là-bas où est-ce qu'on du monde, il y en a à peu près pas. Ils se font tous dans les
villes-là. Il n'y en a pas tant qu'il n'y a pas plus de monde que nous autres, on en a au niveau de l'agence de sécurité avec laquelle...
Mais soit qu'ils travaillent peut-être mieux, mais je sais que les commerçants là-bas nous disent qu'ils ne sont pas affligés comme nous autres.
Mais si je peux en venir.
Mais
je peux emmener un dernier point. Je peux emmener un dernier point, là. Tu sais, Mont-Tremblant, quand ils ont mis dehors leur police municipale, puis ils ont pris la SQ, eux, ils ont fait un gros bras de fer avec la SQ, puis ils ont dit là, le poste reste ici, puis c'est les mêmes policiers, puis c'est les mêmes effectifs. Pas d'affaire que tu vides le poste, puis tu envoies la moitié de l'équipe n'importe où ailleurs. Là. Tout le monde reste là, puis on veut la même présence policière. Fait qu'ils ont encore une très forte présence policière là-bas. Puis je trouve que ça fait ça. Ça paraît déjà plus.
Est-ce que tu es en train de dire que c'était mal négocié le départ des policiers?
Moi, je trouve que oui. Mais c'est un loin en arrière.
On en paye 3 par année pour le moins de service. C'est ça.
Merci de m'avoir écouté.
Madame, es-tu? France, es-tu?
Bonjour. Alors, je ne suis pas inhabituée là, de vos conseils, mais je trouve ça intéressant. Tu vas venir, j'apprends bien des choses. Moi, ça va être, j'ai deux petites questions. La première, c'est la question du lac Ron. Je sais que ce n'est pas la première fois que ça arrive qu'on ferme la plage. Moi, je suis peut-être la seule dinosaure à Sainte-Adèle, là, mais moi, je ne suis pas très Facebook. Alors, je sais que vous avez passé vos annonces via Facebook, les réseaux sociaux. Serait-ce possible, on a un système d'alerte, là? C'est parce que la plage...
Il existe ce système-là.
Ben, oui, c'est
qu'est-ce
ça.
Que ça a été...
Non, mais ça n'a pas été fait par ce système-là. Et il me semble que sa période d'été, c'est un moment crucial. Il me semble que ça aurait été bon de spécifier des gens qui se sont pointés, puis bon, hop, ça se fait que c'est fermé. Puis je sais qu'ensuite, vous avez diffusé dans votre infolettre toute l'information. Bravo, c'était très clair. Mais ça aurait été le fun de l'avoir avant. C'est-à-dire, là, sur les réseaux sociaux, ça a l'air que ça y a eu du cancan, puis tatata, là. Là, vous avez, semble-t-il, bon, rétabli les faits, je trouvais ça bien. Mais ça aurait été le fun de l'avoir avant, d'avoir cette information-là, si c'est possible. Puis si vous pouvez utiliser le système d'alerte, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut se faire.
Non, le système d'alerte, c'est sûr.
Parce que je me dis, ce n'est pas tout le monde qui va sur les réseaux sociaux, là. Ou,
alors, vous avez mis aux alertes, par exemple?
Bien, je comprends.
On essaie d'augmenter le nombre parce que c'est vraiment pas beaucoup d'adhérents.
OK. Mais parce que ce n'est pas compliqué, en fait, c'est des informations qui s'additionnent, puis en fin de compte, on couvre tout le monde. J'imagine, là, en fait, avec l'ensemble.
Lorsqu'il y a un problème dans un secteur, c'est ces gens-là qui sont appelés.
Okay.
Lorsqu'il y a un problème général, c'est tout le monde. On ne peut pas appeler que tu sois blessé.
Mais le Lacron s'entend que ce n'est pas juste sur ceux qui sont autour. Il y a des gens qui viennent de partout à Sainte-Adèle. Alors, ça, c'est un bon point. Deuxième point, moi, je suis au 471 rue Morin. Vous voyez où je suis, au coin de Bourg-du-Lac. Moi, je suis bien protégée. J'ai beaucoup d'arbres chez nous, puis ils ne seront pas coupés parce que c'est chez nous. On est rendu où? Là, à un moment donné, des fois, je vois des camions, j'en vois plus, j'entends plus creuser. Là, je suis allée voir, là, c'est une suspension partielle. Là, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Moi, j'ai trouvé aussi que, en tout cas, s'il y en a qui trouvent des coupes à blanc, des places, ça, c'est une affaire qui est hallucinant, là. Ça, c'est assez effrayant. Puis je pense à le voisin qui était sur le coin, puis que maintenant, je vois quasiment, quand je me promène, je vois quasiment dans sa salle à manger. Je me dis... il aurait pu garder au moins une petite lisière pour ça, au moins eux.
Ça, on y est rendu.
Ben oui.
En fait, où on est rendu dans le moment, c'est qu'effectivement, il y a eu une, quand on dit un arrêt partiel des travaux, c'est que le promoteur ne peut pas faire de travaux dans les deux bandes riveraines identifiées. En fait, il ne peut pas faire grand-chose.
Okay.
Il ne peut rien faire. Puis dans le moment, face à le fait que le promoteur avait une évaluation que le ministère est venu contredire l'évaluation avec une deuxième évaluation, la ville a décidé, dans ce contexte-là, de demander une évaluation par un biologiste du terrain.
Okay.
Là, on va avoir des nouvelles à ce moment-là, je ne sais pas, dans quelques semaines, on va être plus au courant. Ils vont nous remettre un rapport à savoir si c'est des vents, si c'est des fossés ou si c'est des conduites.
Mais c'est ça, c'est parce que je me dis, on est rendu pas mal loin, là. C'est dans le sens qu'on a-tu fait un ravage? Je me dis, c'est comme... Oui, c'est ça, oui, mais je veux dire, mais ça fait longtemps que ce coin-là, ça a été à vendre, là, c'est arrêté, puis on s'est dit, on a assez parfait, mais...
De toute façon, dans le moment, c'est ça, la situation, c'est que il y a le ministère qui dit une chose, puis il y a le promoteur avec son... Ces spécialistes qui disent autre chose. Alors, face à ça, nous, on a décidé qu'on faisait une évaluation pour trancher.
Mais j'imagine que la ville va se tenir debout, là, que je sais que des promoteurs, des fois, c'est à coup d'avocat puis tout ça, mais c'est précieux, ce coin-là. Là, déjà qu'on a fait pas mal de ravages...
Finalement, on est là, puis on attend la suite des choses avec les rapports du bilan.
Puis ça, pouvez-vous nous informer dans l'infolette, là? C'est le fun de savoir ce qui se passe, parce que, encore là, le même principe, si on attend que les résidents, nous, on n'est pas au courant comme vous, alors on arrive tout le temps, oups, des faits accomplis. Alors, si un petit peu à l'avance, un petit peu nous avertir ce qui s'en vient, là. Ça évite d'être des gens mécontents.
Quand on va savoir les résultats, c'est certain qu'on va les diffuser.
Merci.
Je me
demandais, monsieur,
le voisin d'à côté, le monsieur qui reste à côté, ils ont
ben oui, ça, je disais, quand on marche, on va quasiment dans sa salle à manger.
Mais juste parce que pour l'enregistrement, ça fait compliqué les choses.
Merci.
Okay. Madame Briard.
De un, juste une petite rectification, là, vous avez dit qu'en 2017, là, M. Goupil, vous avez parlé plein de chiffres, là, 306, 349. Uh-huh. Bref, durant mon mandat, moi, M. Goupil a seulement déposé le luxe gouverneur. Il n'a rien déposé de plus.
Il n'a pas déposé les...
Rien du tout. Vous pouvez vérifier avec l'urbaniste, là, mais il n'y a personne à l'urbaniste qui a travaillé sur autre chose que le luxe gouverneur. Okay. Et que ça a été présenté à la population à l'époque. Okay. Bref, félicitations d'avoir retiré le PPU. Je pense que c'est très apprécié de la population. Est-ce que ça veut donc dire que le Chanteclair n'est plus inscrit dans le périmètre urbain si ça ne passe pas au mois de novembre à la MRC automatiquement?
Ça ne se rendrait pas à la MRC dessus, mais il faudrait que le conseil...
Donc là, on est dérogatoire par la MRC, mais le périmètre urbain, vous aviez fait des demandes pour étirer ça. Est-ce que là, ça tombe comme à l'eau, puis il n'y en a plus, puis ça
rien? Le périmètre urbain est toujours
là. OK, il ne bouge pas.
Il ne bouge pas.
OK, c'est parfait.
C'est pour ça qu'il y a un règlement de contrôle d'intérimaire pour geler toutes les constructions.
Parfait. Okay. Mais qu'on continue à signer des protocoles d'entente, mais ça, c'est un autre sujet. Petite question, c'est la première fois depuis certains sages de Sainte-Adèle me disaient presque 45 ans qu'il n'y a pas eu trois équipes complètes à la mairie. Mm-hmm. Donc, je trouve ça vraiment sain pour la démocratie de Sainte-Adèle. Je trouve ça vraiment intéressant. On va avoir des beaux débats. Mais afin d'avoir des beaux débats ailleurs que sur Facebook, je pense que ça serait intéressant que la ville puisse en organiser un.
On peut pas.
Pourquoi?
Parce qu'on doit être du politique. Donc, la ville ne peut pas organiser un débat.
Donc, est-ce qu'un citoyen pourrait louer la place des citoyens à titre de citoyen de Sainte-Adèle?
Dans les dernières élections, il y a le regroupement des gens du domaine d'Auville qui ont organisé une rencontre. Il y avait les candidats, vous n'étiez pas là, mais il y avait les candidats à la mairie et les candidats pour le district.
Bien, ça, habituellement, les associations de l'ACT, les différentes associations, là...
Les gens, c'est pas nécessairement de l'ACT.
Moi, je parle d'un débat ouvert à la population. Donc, est-ce qu'un citoyen pourrait louer la place des citoyens?
Le conseil, c'est de vérifier avec le DGEQ. Il y a des normes pour les débats. Ça ne peut pas être n'importe qui en organise. Un journal, par exemple, peut en organiser un. Une chambre de commerce, je crois que oui aussi, mais il y a des règles, sinon ça peut faire partie des dépenses électorales des équipes. Donc, okay. C'est vraiment important. Je vous conseille de vérifier avec...
C'est déjà tout vérifié. Je voulais juste savoir si la ville était... devrait être partie prenante.
La ville ne peut pas...
OK, parfait. Merci.
Juste ça.
J'ai juste ajouté que c'est 25% finalement votre subvention pour la caserne.
Monsieur Lagagnan.
Bonsoir. C'est ma première expérience dans la réunion municipale. Je trouve ça intéressant. Juste en passant, moi, je viens de Mirabel-en-Haut. Mm-hmm. Et j'avais un arbre problématique pour ma maison qui était dangereux. Ils ont accepté que je l'abatte. En contrepartie, que je fasse deux plantations d'arbres mm-hmm. sur le terrain. Alors, il y a moyen de oui. moyenner, n'est-ce pas? C'est... OK. Ça peut être une forme de compensation. Je penserais qu'on parlait du projet Chanteclair, M. Arlac. Ce n'est pas nécessaire, mais je voulais vous sensibiliser au fait que si vous augmentez la population de Sainte-Adèle, vous devez penser au niveau hydraulique, vous devez penser sanitaire, vous devez penser circulation, vous devez... beaucoup de choses comme ça avant d'y aller de l'avant, d'accord? C'est juste au cas. Pour ceux qui vont se présenter, puis ceux qui sont maintenant dans cette position-là, c'est important de comprendre ça.
Oui, on est très conscient de ça parce qu'on a fait faire des études.
Il y a eu des études?
Au niveau des infrastructures, ce que ça pouvait présenter.
D'accord.
Au niveau de la circulation, mais c'est juste à l'intérieur du PPU qu'il y a eu des études.
On vient de parler d'un problème de circulation. Imaginez si on ajoute 1000 portes, 3000, 4000 personnes. Ouais. On est combien à Sainte-Adèle?
Pas tant que ça, mais non, je veux dire, mais
au maximum.
Je sais qu'il y a des recommandations qui avaient été faites pour créer des voies de contournement ou de demander au ministère d'ouvrir des nouvelles stations.
Vous savez que Sainte-Adèle, c'est une voie. Hein? Les gens n'empruntent pas les voies autour. C'est un boulevard, puis Saint-Sauveur, c'est bien différent. Saint-Sauveur, il y a un paquet de ramifications qu'on peut emprunter pour éviter le trafic. Mais ici, on n'a pas... En passant, je ne serais pas impressionné, je suis allé au Maxi, pour faire de la publicité. Mais j'ai trouvé ça excessivement dangereux de sortir de là. C'est pas possible. Pourquoi vous n'avez pas permis sur Valiquette de remonter de l'autre bord une sortie en pente? C'est impensable de sortir sans prendre un risque. Vous allez avoir un méchant accident.
De quoi tu parles du Maxi?
Du Maxi. Il y a deux sorties. Une qui s'en va vers le nord, puis une qui s'en va vers le sud. Celle qui s'en va vers le nord, c'est un casse-gueule. Il faut attendre les deux côtés. Puis si vous avez le malheur de sortir à 4-5 heures d'après-midi, vous êtes fait.
Mais ça c'était discuté avec les gens du ministère, avec aussi les gens.
Mais
de
nous, là, on ne le voit pas. Oups. Je ne suis pas habitué à ça. On ne le voit pas. Quand ça se construit, on ne voit pas ce qui se passe.
Non,
on n'est pas au courant de ça.
Ce qui est arrivé, c'est que premièrement, le Maxi avait fait des démarches auprès du ministère du Transport, savoir s'il mettait un feu de circulation ou pas. Les ingénieurs du ministère du Transport ont dit que ce n'était pas nécessaire. Laissez-moi finir.
Mais c'est dans la ville de Sainte-Adèle. Ce n'est pas le ministère du Transport.
Pour
l'enjeu,
comment les gens peuvent juste rester?
Le boulevard Sainte-Adèle, c'est régi par le gouvernement du Québec, le ministère du Transport. La ville ne gère pas.
Vous ne pouvez pas rien dire là-dessus.
Bien, on peut être pas content, on peut manifester certaines fois. Mais puis on peut recommander des choses, comme des fois on recommande de modifier la vitesse, ça prend 3 ans puis on finit par l'avoir. On peut demander d'installer des feux de circulation à certains endroits, on peut le demander, nous on essaie de justifier.
Okay.
Mais ce n'est pas des démarches qui sont
d'accord.
Okay. Puis dans le cas je peux vous dire que la première chose qui a été faite, c'est qu'on m'a dit qu'eux avaient fait des démarches auprès du ministère du Transport, puis les ingénieurs avaient déterminé qu'il n'y avait pas lieu d'avoir des feux de circulation. Première chose. Deuxième chose, ils ont dit, garde, c'est sûr que les deux premières semaines, ça risque d'être un peu problématique parce que c'est nouveau. Puis l'argument, c'est qu'après 2 semaines, on verra si la chose se rétablit, si ça s'améliore ou si ça.
Je ne vois pas comment ça peut s'améliorer, mais.
Ben, il va y avoir moins de monde qui vont venir parce que là, il y avait l'effet de curiosité, que tu avais plein de monde en même temps.
Peut-être.
Ensuite de ça, ils m'ont appelé hier parce qu'ils veulent demander aussi au ministère de synchroniser les flux de circulation entre le coin de Mont-Relent et celui du métro, ou en tout cas du centre commercial, pour qu'il n'arrive pas en même temps, pour pouvoir justement faciliter la circulation.
Bonne idée.
C'est ça.
OK.
Puis personnellement, moi, en tout cas, mais moi, peut-être parce que je ne suis pas pressé, peut-être parce que je suis retraité, je ne sais pas, mais moi, je sors par la sortie sud, puis je fais le tour par le pont, je reviens.
Ça fait un méchant trafic?
Non, ça prend 1 minute et demie de plus.
Ça dépend comment. C'est exact. Anyway, ça, c'est un autre. Personnellement, ouais, j'avais. OK. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai un problème. Je suis sur Fribourg, puis je suis le dernier connecté en haut.
Vous êtes où, sur
Fribourg.
En Fribourg, OK.
En haut, comme on dit. Et puis, il y a une problématique avec vos stations de pompage. Hein. Moi, je ne comprends pas. C'est sûr qu'il y a une panne électrique qui dure 5 secondes, les pompes tombent off. Puis on n'a plus rien pendant je ne sais pas combien de temps.
J'ai habité dans ce secteur-là, effectivement, il n'y a pas de génératrice pour prendre la relève.
C'est ça que ça prend.
Bon, on installe, puis on installe régulièrement, mais au coup,
je la vois des fois disparaît.
Mais j'y vais, moi j'habitais au Rocher Voisy,
ouais.
Là de chez vous. Puis,
imaginez si on a une panne de courant, il n'y a plus d'eau, les pompiers, un feu en haut, quelqu'un monte, pas d'eau. Qu'est-ce qu'on fait?
Non, mais de toute façon, les pompiers, eux autres, ils ont accès à...
Oui, mais une certaine quantité, là, on s'entend. Eh oui, ça, c'est une problématique.
Chez vous, c'est vrai, vous êtes où?
Oui, moi, je suis le dernier en haut, là. Puis j'ai des coups de bélier épouvantables dans la maison. Parce que moi, j'absorbe tout l'air quand ils remplissent la conduite. Vous comprenez ce que ça veut dire, un coup de bélier, là? Là, ça veut dire que les toilettes sont avec d'exploser. Hein? Ça prendrait un coupe vide.
installé. C'est vraiment simple là, au niveau hydraulique. Là. Un coupe vide près de la dernière bonne fontaine pour faire sortir l'air du réseau quand ils le remplissent à nouveau. C'est pas grand-chose.
OK.
OK. Puis, je voulais savoir pourquoi l'eau est brouillée après ça pendant une semaine, deux semaines. Elle est pleine, elle est blanche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a de l'air qui s'infiltre dans le système. C'est quoi?
Bien, je n'ai pas l'information. Est-ce que vous avez communiqué toute cette information-là au service
technique? Oui, plusieurs fois.
Parfait.
Ouais, mon gars responsable.
Après la rencontre.
Oui. Puis, Tertio, il y a eu l'asphaltage. Ça, c'était génial parce que c'était épouvantable, la dégradation. On a 8 degrés. Mais il y a encore un problème plus haut. Il y a tout le temps, comment est-ce qu'on appelle ça, le camion pour niveler, là. Puis il passe souvent, à chaque fois qu'une pluie diluvienne, toute la route part, c'est assez dramatique à voir, et ça fait des trous, tout ça. Fait que ça, on en discutait ce soir, combien ça serait pour finir l'asphaltage, je sais que c'est dispendieux, mais ça serait peut-être un calcul à faire.
Bien, normalement, je sais que lorsque les citoyens demandent l'asphaltage, si les gens de tous les secteurs sont d'accord, on va faire une évaluation du coût, on va vous dire comment ça vous coûte.
OK. Qui va payer ça?
C'est
moi. c'est ça, j'ai entendu aussi. OK, c'est bon. Alors, c'est tout.
Okay,
merci.
Je vais finir de prendre les noms, madame.
Si vous permettez, avant de quitter, j'ai dans l'émotion, là, j'en ai perdu un petit peu. Là. Le 18 août, la clinique se fait à la place des citoyens. Dans un monde idéal, allez sur la page de Héma-Québec et prenez un rendez-vous formel. Comme ça, ils vont être en mesure d'envoyer une équipe en fonction là, du nombre de demandes. Puis une autre chose, il y a un protocole à suivre au niveau du don de sang. Vous ne pouvez pas, je le répète à chaque fois, vous ne pouvez pas arriver avec vos chaudières de sang. Là, il dépend de
OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de poser ma question après?
Ah, oui.
Est-ce que quelqu'un veut...
Bien, pour finir, je voudrais endosser ce que Charles a dit, puis c'était la chose la plus importante.
Moi, je vais juste en rajouter, si vous n'êtes pas disponible ce jour-là, il y en a aussi à Moran Heights, le 31.
OK, les amis,
moi, je vais là.
C'est vous d'avoir la discipline.
Je propose la levée de l'Assemblée.
C'est tout. Mais la pluie, là.
La pluie.